Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Delouézy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, à l'occasion de l'exposition qui se tient au Grand Palais éblouissante Venise, Venise, les arts et l'Europe au XVIIIe siècle, nous parlons justement de Venise, ses artistes, ses palais. Une vision irréelle, une merveille qui depuis 600 ans apparaît aux voyageurs qui découvrent la lagune. Considérée depuis l'XIe siècle comme la plus grande puissance économique de Méditerranée, elle règne sur le commerce pendant 6 siècles. Elle construit, chante, peint, sculpte, festoie, danse et se livre à des joies nulle part ailleurs, aussi partagées et ici éperdues dans un décor songeur. Après la profondeur des Bellini, Giorgione, les soleils rougeoyants de Titien ou du Tintoret, la nuit aurait pu tomber sur la Venise du XVIIIe siècle, mais magique encore et prestigieuse, Venise demeure exubérante, créative et fascine toujours l'Europe. Les artistes arrachent à la mélancolie de ce crépuscule les derniers éclats de lumière et influencent toujours les cours européennes. Bonaparte met fin en 1797 à 1000 ans de République et quelques mois plus tard, la France abandonne la Sérénissime à l'Autriche. Une exposition, cette exposition, raconte le dernier siècle splendide et peut-être triste de cette merveille déchue, alors que les noms des grands artistes Vivaldi, Goldoni, Tiepolo, Corradini résonnent à nos oreilles, auréolés d'une gloire intacte. Aujourd'hui, pour parler de cette aventure vénitienne du XVIIIe siècle, j'ai la chance de recevoir Catherine Loisel. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Vous êtes la commissaire de cette exposition qui raconte ce siècle compliqué, peut-être moins connu que les autres.
Certainement, on pense toujours effectivement à Véronèse, Titien, Bellini. Mais ce XVIIIe siècle est encore plus éclatant parce qu'il est fait de contrastes. Et j'espère que l'exposition le montre bien.
Et alors vous avez choisi d'inviter pour faire la scénographie de cette exposition une grande artiste que nous aimons, que nous connaissons bien, Masha Makayev, qui aujourd'hui dirige La Criée à Marseille et que l'on a vu dans beaucoup de mises en scène de théâtre, dans beaucoup de d'aventures comme ça. Curieuse, qu'est-ce que vous préparez Masha en ce moment ?
En ce moment, on va reprendre la fuite de Bulgakov sur l'exil des Russes blancs et l'artiste empêché qui est Bulgakov. Donc il rêve son œuvre parce qu'il ne peut pas la voir représentée. Et puis...
Mais vous le montrez où, à La Criée ?
Oui, on le remonte à La Criée, puis après on repart en tournée avec Trissotan, Les Femmes Savantes. Et puis moi je travaille chaque jour à l'adaptation de Lewis versus Alice autour de Lewis Carroll.
Qui va être montré ?
Qui va être montré en juillet dans un festival dans le Vaucluse que je ne peux pas citer. Et qui sera autant anglais que français, autant musical que de discours dans la langue française. Quelque chose autour de la traduction aussi, et un éloge de l'extravagance, et des extravagants et des excentriques anglais. Et qu'est-ce que ces gens-là, justement, ces artistes-là, nous ouvrent de champs de liberté.
Est-ce qu'on pourrait dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, Catherine Loisel, que c'est un grand moment d'excentricité, ce curieux XVIIIe siècle vénitien ?
Oui, et grâce à l'anonymat du masque. Parce que justement, le libertinage est très important à Venise et remarqué par tous. Et on vient de toutes parts pour pouvoir être libertin tranquillement sous le costume de masque.
Mais ce libertinage, au fond, est le prétexte aussi à une créativité inouïe, puisque musique, danse, costume, décor, tout est d'une exubérance folle.
Je ne crois pas que ce soit lié au libertinage, je crois que c'est lié à cet esprit vénitien d'inventivité permanente, et puis au fait qu'on ne peut pas expliquer, mais il y a des grands génies. Et comment explique-t-on un génie? Je ne sais pas comment vous faites, moi je ne peux pas. Jean-Baptiste Tiepolo est un grand génie.
Mais peut-être que c'est dû à l'arrière-pays mental que ces personnes ont, parce que quand on est Tiepolo, on vient porté par 3 siècles de perfection, et on est sans doute habité par cela. Qu'en pensez-vous?
Oui, mais il n'appartient pas, il est un petit peu différent des autres, il n'appartient pas à une dynastie de peintres. Or, les ateliers d'artistes, c'est une constante de l'art vénitien. Il a été peintre comme Giotto qui dessinait à la craie. En fait, n'était pas du tout d'une famille d'artistes et il a appris chez un peintre vénitien, mais il s'est déclaré très vite un grand virtuose de l'art pictural.
Ça vous a intéressé, Masha Makaïev, de rentrer dans cette exposition avec votre capacité dramaturgique pour essayer de faire ressentir ce qu'on ne peut pas transporter, c'est-à-dire les immenses décors, la hauteur des coupoles?
Bien sûr, d'abord il y a une imprégnation de la peinture, donc ça c'était passer du temps avec eux, avec les peintres, ça c'est un grand grand privilège, et puis en fait on fait du théâtre souvent parce qu'on n'est pas peintre, ou pour l'être à l'intérieur de soi-même. Alors évidemment, une exposition comme ça, c'est beaucoup de savoir, mais c'est aussi une absolue fiction. C'est un récit scientifique et en même temps, c'est presque absurde parce que ces œuvres-là ne se rencontraient jamais dans le passé. Et donc là, on invente une façon de les... Elles se rencontrent quelquefois pour la première fois, elles se côtoient, elles se répondent, elles se regardent. Et c'est ce lyrisme-là qui m'apportait de mettre en scène. Bien sûr aussi de mettre en scène le visiteur. Et puis inventer des espaces qui soient autant d'impressions parce que c'est une traversée. Et que, bien sûr, ressentir la peinture, la contemplation de la peinture, suivre un récit scientifique, bien entendu, mais aussi ce pas de côté qui est une suite de sensations, d'imprégnations étranges. Qu'est-ce qu'il nous reste quand on a vu une de très, très grandes expositions, de très belles expositions dans nos vies? Bien sûr qu'on a des œuvres qui nous ont frappés, mais peut-être 4, 5 pour certains d'entre nous, 10, 15 pour les plus initiés. Mais après, c'est toute une atmosphère, c'est la déambulation, c'est ce qu'on a ressenti, c'est un détail, c'est aussi quelqu'un devant un tableau, c'est ce rapport à la peinture. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler sur cette traversée, sur des équivalences, forcément, l'art, c'est toujours des équivalences de ce que l'on peut ressentir quand on rêve de Venise. Et notamment, qu'est-ce que c'est que ce regard à Venise qui n'est jamais interrompu et qui, en même temps, va de promesse en promesse et on ne sait jamais par où on va passer pour aller jusque là-bas. Et cette chose très belle que je vois derrière une grille et puis peut-être un peu plus loin... C'est, voilà, comment vais-je y aller? C'est ça aussi une métaphore de l'entrée dans l'art. C'est pas si simple et en même temps, ça vous appartient immédiatement. Voilà. Puis évidemment, la théâtralité de Venise.
La théâtralité, c'est, ça, c'est Catherine Moiselle. C'est un théâtre, Venise, à cette période-là?
Je crois que Venise a toujours été un théâtre dès le XVe siècle. Et effectivement, c'est d'autant plus un théâtre que c'est la ville d'Europe où il y a le plus de théâtres d'opéra et où l'opéra est complètement sacralisé. Uniquement pendant la période de carnaval, mais comme le carnaval dure presque 6 mois, ça fait quand même beaucoup de temps. De même dans les ospedali, lorsque les jeunes filles chantent et jouent,
les ospedali, c'est,
ce sont ces orphelinats où les jeunes filles apprennent la musique, soit vocale, soit instrumentale, à très très haut niveau. C'est une spécificité de la vie musicale vénitienne. Eh bien, dans les églises des orphelinats, des ospedali, elles chantent et jouent derrière une grille. Donc là aussi, la musique est théâtrale.
C'est assez extraordinaire parce que ces jeunes femmes que toute l'Europe vient écouter parce qu'elles ont des voix d'ange à ce moment-là et elles sont conservées dans cette... Elles sont quasiment cloîtrées, et peut-être pas très strictement, mais enfin, elles n'ont pas beaucoup d'accès à la vie mondaine pendant la première partie de leur vie où elles sont là.
Elles sortent, je crois, elles ont le droit de sortir en dehors de Venise, en terre ferme. Elles vont en villeggiatura, hein, comme tous les patriciens vénitiens. Et puis, elles participent à quelques fêtes en dehors du couvent.
Et donc, quand elles sont libérées, si j'ose dire, c'est-à-dire probablement dans une autre ville, la chorale se défait. On n'est pas comme ces chorales qui durent à Naples ou ailleurs.
En fait, elles n'ont pas le droit d'exercer la musique quand elle se marie, le seul moyen de sortir de l'hospitalier, c'est de se marier.
Oui, j'ai dit se libérer, c'est peut-être pas le mot.
Pas exactement.
C'est peut-être maladroit, oui.
Et je pense que la relève est toujours assurée parce qu'il y a toujours, malheureusement, des orphelines et des pauvres. Et ce sont pas seulement donc les orphelines, quelquefois des jeunes filles de famille pauvre. La femme, l'épouse de Giambattista Tiepolo, Cecilia Guardi, qui était la sœur des peintres Gian Antonio Guardi et Francesco Guardi, qui sont, à mon avis, très bien représentés dans l'exposition, que l'on peut découvrir. Elle était à l'ospedaletto.
Est-ce que vous pouvez nous décrire, en quelques mots, dans quelle situation nous nous trouvons? Pourquoi est-ce que ce 18e siècle que vous nous montrez dans l'exposition est un moment très singulier? Est-ce que c'est simplement dû à cette décadence politique? Quelle est la situation, au fond, historique de Venise au XVIIIe siècle?
Les institutions sont copiées exactement, elles sont tout à fait ce qu'elles étaient au XVe siècle.
C'est-à-dire le doge, des familles praticiennes.
Le doge, le conseil des dix, les trois inquisiteurs extrêmement redoutés, qui entretiennent une armée d'agents secrets, qui leur font des rapports, et que, heureusement, grâce aux archives bien conservées, on peut consulter. Et le Sénat, qui prend le pas sur le grand conseil. L'Assemblée des nobles, environ un millier de patriciens, qui forment le grand conseil, et qui vote les lois et qui élit aux magistratures. Toutes les magistratures, y compris celles du doge, sont sujettes à élection. Et c'est la grande différence avec toutes les monarchies absolues, évidemment, en Europe à cette époque. C'est pourquoi aussi des étrangers comme Montesquieu viennent étudier les institutions vénitiennes. Mais le fait de renvoyer toujours à la tradition et de ne pas vouloir évoluer a sclérosé complètement ces institutions vénitiennes.
Alors, on va écouter ce que disait Taine, donc, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, sur Venise, lors de son voyage à Venise. Et nous allons ensuite essayer de rentrer dans la créativité extraordinaire de Venise, cette créativité luxuriante. Écoutons Taine.
Dans cette pourriture qui suit la mort des vertus militantes, subsiste un seul point vivant, le goût du beau. La spirituelle et fine peinture de paysages et de genres fleurit presque jusqu'au dernier jour. La musique naît et bientôt passe de l'église au théâtre. Quatre hôpitaux de petites filles abandonnées fournissent des séminaires de musiciennes et de chanteuses incomparables. Presque tous les soirs, il y a sur les bords du grand canal académie avec musique et avec un affolement inconcevable, le peuple se presse sur les gondoles et sur les quais pour l'écouter. Au théâtre, la fine et capricieuse fantaisie de Gozzi brode au-dessus de toute cette misère un tissu diaphane de rêveries dorées et de grotesques divertissants. Les races nobles sont belles, même dans leur délabrement. L'imagination poétique qui a illuminé les fortes années de leur jeunesse les accompagne jusqu'au seuil de leur tombe pour échauffer et colorer les derniers moments de leur vie. Et ce privilège sauve leur décrépitude, comme leur âge adulte, des deux seuls vices impardonnables, l'aigreur et la vulgarité.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière, et nous sommes en train de vivre dans la Venise du XVIIIe siècle, et nous sommes en train d'explorer quels sont les artistes, les figures qui apparaissent. Et je suis avec Catherine Loisel et Macha Makaïev pour parler de cela. Macha qui a fait la scénographie de l'exposition et Catherine Loisel sa commissaire. Catherine Loisel, on parlait de Gozzi. Qui est ce Gozzi que l'on vient de nommer?
Carlo Gozzi est le grand rival de Goldoni. Et c'est lui qui va gagner puisque Goldoni va partir, désespéré, va partir, va émigrer en France. Et vous savez qu'il a écrit ses mémoires en français. Carlo Gozzi voulait un théâtre de la fable, un théâtre de la poésie, alors que Goldoni voulait rénover complètement le théâtre vénitien et évoquer la réalité des mœurs, la réalité des personnages de la vie quotidienne.
Est-ce que les formes qu'invente la Venise du XVIIIe siècle, aussi bien dans le domaine du théâtre que dans celui de la peinture ou de la sculpture, sont des formes qui sont véritablement en rupture avec ce qui se passait autour d'eux en Europe? Ou est-ce que c'est le rococo tel qu'on l'a ailleurs? Est-ce que c'est voisin de cela?
Je ne pense pas qu'il y ait une rupture. Au contraire, il y a énormément d'échanges. Par exemple, Piazzetta, S'inspire des gravures qui viennent de France. Il s'inspire des gravures d'après Watteau.
Alors, Pietà, c'est un très grand artiste, sombre d'ailleurs, oui. Un peu tourmenté, non, Macha, vous avez...
Oui, magnifique. Hein, on l'a mis en valeur, vraiment, il y a... On tombe sur lui et en même temps, il y a comme un cabinet qui lui est vraiment réservé. C'est encore Caravage et c'est déjà Courbet. Il y a une espèce de mélancolie incroyable. Il y a une expressivité. Il est en train d'inventer une peinture qui viendra bien après lui. Et c'est le tourment, les visages, notamment l'enfant au drapeau. Mais c'est extrêmement troublant de voir comment cet homme peint. Alors que les autres...
Alors, il y a un tableau, par exemple, que je trouve extrêmement beau et qui reprend les thèmes de Caravage, qui est le Juif oui. d'Holofernes. Mais oui. il n'y a pas du tout la violence décidée de Caravage. C'est un tableau tout en intériorité. On a l'impression qu'on est dans le drame intérieur.
Absolument, à l'intérieur et de l'homme et de la femme. Parce que lui, il est dans une espèce de sommeil disloqué. Enfin, tout son corps est déjà disloqué. Il s'abandonne au sommeil et en même temps, on a la préfiguration de son corps qui va être coupé, tronçonné. Enfin, il y a quelque chose d'un peu des hommes de Louise Bourgeois. Comme ça, on a l'impression que on entend cette femme qui va faire et qui va briser sa nuque. Et en même temps, un travail de la lumière absolument magnifique. Et ce tableau-là m'a absolument poursuivi. Vraiment, justement, cet homme endormi, proche de la dislocation, juste avant qu'on le coupe. Et la lumière est d'une beauté absolue. Et il s'est produit plein de choses comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des expositions. C'est pour cette relation d'absolue intimité avec la peinture, comme ça. Quand on les voit sortir des boîtes et qu'on les pose, et les gants blancs, et la façon dont elle s'est observée. Et tout ce temps-là, qui est absolument inconnu du public, qui nous est réservé, c'est après tout ce que, bien sûr, et tout le travail d'élaboration avant, mais dans ce chantier-là, quelque chose d'absolument bouleversant.
Je sens que ce chantier pourrait devenir une pièce de théâtre, en fait, hein, parce que c'est des personnages qui bougent, qui circulent,
oui,
qui ont chacun
leur rôle.
C'est
très fantomatique, et puis après tout, je vous dis, c'est des rencontres incroyables. Ces gens-là n'avaient pas, ces tableaux-là n'avaient pas... Je parle de tableau comme des gens n'avaient pas à se rencontrer. Ce sont des conversations totalement fictives. C'est parce qu'elles se sont des fictions que c'est fort.
Et ce Piazzetta, dites-moi, Catherine, quelle importance avait-il à l'époque? Est-ce que c'est un artiste qui vous intéresse particulièrement? J'ai eu la sensation que vous l'aimiez puisque vous l'avez mis vraiment en valeur avec cinq ou six tableaux spectaculaires.
Oui, j'ai voulu faire découvrir au public français un artiste mystérieux. Dont l'iconographie des œuvres n'a pas encore livré tous ses secrets. Un peintre d'une virtuosité extraordinaire qui sait renvoyer la lumière à partir d'un éclat de peinture, c'est fabuleux. Et en plus, c'est un dessinateur merveilleux. Et j'ai découvert vraiment la force de cet artiste en l'étudiant. Et j'espère que les œuvres que nous présentons, qui donnent toutes les facettes de son art, depuis les œuvres les plus caravagesques, jusqu'à cette invention de la pastorale avec de véritables paysans, avec des tissus qui ne sont pas des soieries, mais des tissus bruts, rugueux. J'espère que la rencontre avec cet artiste sera un des grands plaisirs de l'exposition pour les visiteurs.
Alors, il y a des... Comme le disait Macha, le jeune homme porte-drapeau est très courbé parce qu'il y a un réalisme sur son visage qui est un visage très très modeste. Hein, la touche est enlevée, c'est très appuyé. Et puis il y a un tableau quand même que je trouve d'un mysticisme fou et qui est tellement différent et de Rembrandt et de Caravage, ses prédécesseurs, qui est les Pèlerins d'Emmaüs. Et curieusement, dans l'exposition, il est mis pas loin d'un autre Pèlerin d'Emmaüs qui là est étrange. Est-ce que c'est Tiepolo, un tableau extraordinairement exubérant ou au contraire le mysticisme a disparu, il n'y a plus que du vent dans les voiles, si j'ose dire.
Vous voulez parler du tableau de Gian Antonio Guardi, les Pèlerins d'Emmaüs.
Vous avez raison, c'était
que
Guardi.
Nous présentons dans l'exposition à côté de son dessin préparatoire.
Oui.
Et l'artiste qui est le frère aîné de Francesco Guardi, qui est beaucoup plus connu pour ses vues de Venise, est un peintre de la lumière. Il a une touche scintillante qui renvoie la lumière, mais Le tableau est une véritable découverte pour les visiteurs parce que normalement, il est conservé dans l'église des Andelys où très peu de gens vont le voir. Et je vois les visiteurs dans l'exposition qui s'arrêtent, qui sont subjugués par ce travail magistral.
Mais vous avez préféré, est-ce qu'on peut jouer à se dire, mais je préfère le mysticisme de Piazzetta que la superficialité exubérante de Guardi, ou est-ce que vous trouvez que ces deux visages sont les visages au fond de Venise, à la fois méditative et glorieuse, quelque chose comme ça?
Tout à fait, tout à fait. Je pense que ces artistes étaient tous catholiques, au plus profond d'eux-mêmes, parce qu'ils sont nés catholiques. Mais je pense qu'ils avaient, de par leur voyage, leurs contacts très différents, ils ont eu des mécènes qui étaient des protestants, qui étaient des étrangers. Ils avaient une vision du monde beaucoup plus large que leurs contemporains restés à Venise. Et tout l'avantage de ce régime vénitien qui était qui enserrait vraiment la noblesse vénitienne dans des règles très strictes, mais qui pour le reste donnait une grande liberté, c'est que les artistes n'avaient pas tellement à rendre de compte.
Qu'est-ce que vous en pensez, Masha Makayev? Vous avez le sentiment que les artistes ont une liberté absolue, que c'est un moment où ils peuvent aller loin dans leurs aventures?
Oui. Les contrastes nous le disent, mais moi, ce qui me frappe, c'est la richesse du surnaturel. C'est-à-dire que ils sont catholiques ou ils sont je ne sais trop quoi, mais peu importe, leur surnaturel, ça n'est pas que le dogme. C'est toutes les fantasmagories, bien sûr, bibliques, mais c'est aussi des choses invraisemblables et tellement contrastées. Quelquefois, c'est d'un intimisme incroyable, et puis quelquefois, ce sont des folies, ce sont des mises en scène folles, avec vraiment des gens qui basculent dans l'espace, enfin, des choses qui ne devraient pas être là et qui sont là parce qu'ils les ont sous la main. On le sent bien quand on regarde. Ça me fascine toujours dans la peinture, au fond. C'est-à-dire qu'il y a un rêve inouï, quelque chose d'une vision, et à côté de ça, bon, bah si, tiens, il y a un objet par terre, je le mets, puis je le peins, parce que je le mets là, et le petit chien qui passe aussi. Et c'est cette tension entre ce réel transporté, et puis le message que l'on veut dire d'une vision métaphysique. Et après tout, on ne peut pas faire de métaphysique sans prendre des parcelles de réel, comme ça. Donc c'est une grande liberté, bien sûr, immense liberté.
Alors écoutons Antenne à nouveau nous parler de la liberté de cette Venise du XVIIIe siècle.
Au XVIIIe siècle, on pourrait les comparer à ces thébains de la décadence qui s'associaient pour manger leurs biens en commun et léguaient en mourant le reste de leur fortune aux survivants de leur banquet. Le carnaval dure 6 mois. Tout le monde, même les prêtres, le gardien, des capucins, le nonce, les petits-enfants, les gens qui vont au marché portent le masque. On voit passer des processions de gens déguisés en costumes de Français, d'avocats, de gondoliers, de calabrais, de soldats espagnols, avec des danses et des instruments de musique. Le peuple les suit, applaudit ou siffle. Liberté entière, prince ou artisan, tout le monde est égal. Chacun peut apostropher un masque. Des pyramides d'hommes font des tableaux de force sur les places. Des arlequins en plein vent jouent des parades. 7 théâtres sont ouverts. Des improvisateurs déclament et les comédiens improvisent des scènes plaisantes. Point de ville où la licence règne plus souverainement. Le président d'Aix-Brosès y compte 2 fois autant de courtisanes qu'à Paris. Toutes d'une douceur et d'une politesse charmante, quelques-unes du plus grand ton.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Et nous sommes en train de parler de Venise. Et nous écoutions Antenne parler de cette curieuse animation, cette joie dans un siècle pourtant fragile. Et vous êtes d'accord sur ce mot décadence, Catherine?
Absolument pas. Je pense que la Venise du XVIIIe siècle était une ville très joyeuse, très gaie, et où on travaillait aussi. Il y a beaucoup de... À Murano, on continue à produire du verre, il y a des manufactures de soie. Et le monde que Goldoni nous présente, c'est un monde d'artisans, de commerçants, de gens qui travaillent tous les jours. Et la décadence, c'est une décadence politique à la fin, toute à l'extrême fin du XVIIIe siècle et économique.
Mais on a l'impression qu'ils n'ont pas la sensation de la fragilité d'un empire qui pourtant se déconstitue à cette période-là.
En fait, la ville a vécu, l'État vénitien a vécu dans la paix, ce qui est tout à fait anormal en fait au XVIIIe siècle. Il y a eu la guerre de 7 ans, la guerre de succession d'Autriche, et la ville a déclaré, l'État a déclaré la neutralité à partir de 1718. Ce qui, effectivement, à la fin du siècle, leur a interdit d'avoir des alliés. Et lorsque Napoléon est arrivé, a massé ses troupes sur la lagune et ils ont dû capituler.
Alors, il y a une œuvre qui, dans le caractère spectaculaire de cette Venise-là, évidemment, est très prenante. Et je pense qu'à l'époque, elle a dû être très fascinante pour le public. C'est cette étrange allégorie de la foi de Corradini. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Macha? C'est une sculpture qui attire beaucoup l'attention. C'est un peu le Jeff Koons de l'exposition.
Oui, on l'a vraiment mise en... Vraiment, on la voit et on voit...
Vous pouvez nous la décrire, que l'auditeur comprenne de quoi il s'agit.
C'est une personne qui a une taille tout à fait humaine, qui est sur son piédestal, mais qui n'est pas particulièrement grande. Ce n'est pas Jeff Koons, justement. Elle n'est pas surdimensionnée. Elle est dans un rapport d'intimité avec nous. Et en même temps, on voit son visage sous un voile. Donc, c'est extrêmement précis. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est, et j'ai vraiment fait attention à ce qu'on puisse voir l'arrière de la statue, c'est que, et quand je vais avec des très jeunes voir l'exposition, je leur montre, on voit la rugosité de la pierre et la bataille de l'artiste. Les coups de gouge comme ça. Au dos.
Oui, vous avez raison,
et c'est
d'une
beauté. Enfin, c'est quelque chose de médiéval, de très beau, du travail comme ça. Et puis tout d'un coup, ce raffinement, cette subtilité pour rendre dans le marbre quelque chose de transparent, d'un voile. Voilà. Et j'adore ce contraste-là et ce chemin-là de l'artiste comme ça. Au fond, pour faire du très très subtil, du très fin, il faut en passer par là, il faut brutaliser la matière. Et ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Évidemment, on l'a mise de face dans un espace où on la voit très bien, d'autant plus que c'est un espace aussi qui accueille régulièrement tous les mercredis des chanteurs, des danseurs ou des acteurs. Et donc, elle est là et elle les regarde aussi en même temps que le public. Et j'aime beaucoup, c'est comme quand on voit dans les Tiepolo le public de dos qui regarde quelque chose que vous ne voyez pas. Et vous êtes comme le public qui regarde quelque chose. Il y a la malice de tous ces artistes qui nous met en scène, nous les regardeurs, tout le temps. Et là, elle est dans le dos du public et elle regarde les artistes.
C'est joli, la malice des artistes, parce que c'est un artiste malicieux. Dans le marbre le plus dur, une jeune femme donne la sensation, alors qu'elle est en marbre seulement, d'être vêtu d'un drapé transparent qui laisse deviner son visage et son corps. C'est, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a été présentée au début à Venise. Elle a été, j'imagine, révélée au public, qui a dû être stupéfait.
Oui, Catherine. Corradini a inventé, avec sa virtuosité extraordinaire, il a inventé ces visages de femmes voilées. Et il a été très... On a essayé de l'imiter, mais on n'a pas réussi à aboutir à cette perfection. Ses collègues ont essayé. Il a été extrêmement apprécié pour cet art. Il a été le sculpteur officiel de la cour impériale de Vienne pendant quelques années. Et c'est lui qui a fini sa carrière à la Cappella San Severo à Naples, où il a conçu ce Christ au linceul, qui est extrêmement célèbre, et dont on oublie que c'est lui qui l'a conçu. Il est mort à Naples.
Alors, ce qui est assez fascinant, c'est que on est dans une tradition très ancienne de la sculpture. Je pense que déjà à l'époque grecque, on avait ces plissés mouillés sur le corps des déesses qui laissaient deviner leur corps. Mais ce goût de l'illusion, ce goût, au fond, c'est ce qu'on retrouve à Venise, les façades de palais devant qui masquent des bâtisses de briques. Il y a un aspect simplement de pur artifice, non?
Oui, et c'est un peu aussi la peinture, la fresque qui cache aussi la brique et les ouvertures dans cette peinture très illusionniste. Pensons à Véronèse et Jean-Baptiste Tatiepo le reprendra. Ses compositions avec des degrés fins, une architecture feinte autour de ces fresques.
C'est C'est typique du baroque, l'idée de faire semblant, de donner la sensation que de la pierre et du tissu, de donner la sensation que du bois et du marbre. Enfin, il y a toujours ce double jeu, non ?
Tout à fait, mais le baroque vénitien est tout à fait différent du baroque romain. Le baroque vénitien est beaucoup plus coloré, certainement moins grandiose, mais beaucoup plus gai.
Alors, il y a un nom qui revient dans notre conversation, forcément, Tiepolo, puisque c'est l'artiste que l'on connaît. Mais quel est son prénom déjà ?
Giambattista, à ne pas confondre avec le fils aîné Gian Domenico.
Dont nous parlerons, parce que j'aimerais bien qu'on termine notre émission en rentrant dans l'œuvre de Gian Domenico, qui pour ma part est une révélation. Mais déjà, Giambattista, à l'époque, c'est le dernier grand, est-ce qu'on peut dire que c'est le dernier grand décorateur
européen du XVIIIe siècle.
Après, on passe dans le néoclassicisme, c'est Mengs peut-être qui suivra.
Mengs, c'est très ennuyeux. Tiepolo n'est jamais ennuyeux. Et Tiepolo, c'est le décor de la résidence de Würzburg, n'oublions pas. Un des grands chefs-d'œuvre de la décoration européenne. Tiepolo, c'est...
US, pardon, parce que nos auditeurs ne le savent pas.
Würzburg, c'est en Franconie, en Allemagne.
Qu'est-ce qu'il a fait là-bas ?
Le décor du Treppenhaus, c'est-à-dire le grand escalier de la résidence, où il a peint à fresque des allégories des quatre continents et évidemment le portrait en gloire de son commanditaire, le prince-évêque. Mais il a mis aussi son autoportrait, celui de son fils, le portrait de l'architecte de la résidence et le portrait du stucateur Antonio Bossi dans la fresque de l'allégorie de l'Europe. Et nous présentons dans l'exposition plusieurs dessins pour cette fresque.
Alors il y a quelque chose que l'on découvre ou que l'on revoit avec joie, c'est deux aspects déjà, c'est... Effectivement, ce sont des grandes déchirures célestes dans les dômes. On a l'impression que le ciel s'ouvre absolument. C'est des bleus d'une intensité folle. C'est vraiment le monde lumineux et maritime, probablement. Et puis, il y a une sensualité des corps qui est très étrange, parce qu'ils sont à la fois sensuels et en même temps, on a parfois la sensation que leur chair est exsangue. C'est comme si elle n'était pas tellement irriguée par le sang.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que la peinture, il faut toujours la regarder en décryptant un petit peu son état. Et je pense que Tiepolo est un peintre, Giambattista, peintre très érotique. Et lorsqu'on regarde de près,
les corps sont sublimes.
Fabuleux. Ouais. Nous présentons un tableau tout petit tableau qui représente Jupiter et Danaï. Et alors, il faut venir voir les fesses de Danaï.
Alors, c'est des fesses généreuses, si je puis dire. Quelques écus comme ça sont versés par Zeus sur son corps.
Et oui, c'est la fable antique, mais Tiepolo la transforme parce que son Zeus est un petit peu grotesque, tout à fait concupiscent. Danaé ressemble plus à une courtisane qu'à une nymphe. Et il y a, comme toujours chez Tiepolo, un décryptage des histoires anciennes.
Est-ce que vous avez l'impression, Masha Makaïev, qu'il y a parfois, dans la malice des artistes dont nous parlions tout à l'heure, une sorte d'ironie qui flotte sur ce qu'ils sont ou ce qu'est la peinture ?
Bien sûr. Bien sûr, d'abord, ils nous disent que ça bouge beaucoup alors que c'est immobile. Et un peu comme l'état de notre âme, en fait. Et puis, oui, ils sont malicieux parce qu'on ne sait pas qui regarde qui. Il n'y a que des jeux de regard. Ils sont malicieux par rapport au monde animal. Ils sont malicieux parce que...
Pourquoi vous dites par rapport au monde animal ? Parce que vous avez insisté, vous, sur les animaux. Puisque...
Beaucoup. Parce que, vous savez, c'est en même temps assez maniaque. Hein. Ce sont des animaux qui sont... ici ou là représentés dans la peinture vénitienne, celle qu'on présente, et puis d'autres. C'est très important, le monde animal, parce que on parlait de sensualité, mais ça fait partie du monde organique. Il y a quelque chose de très organique dans cette peinture. Et puis, évidemment, la malice, c'est sans arrêt de voir que le théâtre est dedans et dehors. Bien sûr qu'il y a des théâtres partout à Venise, bien sûr. C'est la gloire du théâtre. Et en même temps, il n'y a pas plus... beau théâtre que ce qui se passe sur les places publiques, ce qui se joue dans les gens qui ne sont pas soi-disant des acteurs. Et donc Tiepolo notamment les croque, les regarde, il mêle sans arrêt les saltimbanques et la noblesse et les gens du monde et ceux qui passent par là. Et si on regarde une place publique, c'est un emmêlement de qui regarde quoi, qui joue à qui joue pour séduire qui.
On a l'impression que tous les tableaux, oui, que beaucoup de tableaux de cette époque-là sont les tableaux de Venise regardant elle-même.
Tout à fait. Et nous, en train de regarder ce tableau, nous en sommes. Donc la malice, elle est aussi pour nous qui regardons. Et tout ça, moi, je sens aussi que cette malice est absolument leur est nécessaire parce qu'il y a un tel trouble. Bien sûr qu'on parle de l'éblouissement, de l'éclat de Venise, bien sûr. C'est chatoyant, bien sûr. Et derrière tout ça, d'abord une mélancolie comme chez Rosalba Carriera et Watteau, qui c'est des choses, c'est vraiment deux artistes qui se répondent dans cette espèce de mélancolie délicate, mais aussi, pour moi, un trouble très, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant de ce destin de cette ville sur l'eau qui forcément vous dit tout le temps qu'il y a le délitement de la vie, qu'il y a quelque chose qui échappe, que quelque chose se défait sous nos pas. Voilà, moi je trouve que c'est une ville extrêmement, enfin assez dangereuse de ce point de vue-là.
Alors c'est une scène dont les acteurs se regardent les uns les autres, et la plupart des tableaux, je pense à Longhi, à Canaletto, etc., sont des tableaux qui présentent Venise se regardant. Alors il y a cette tradition qui apparaît à ce moment-là de la Veduta, peut-être probablement qui s'adresse aux visiteurs de Venise, à ceux qui voyagent et qui veulent repartir avec quelque chose. C'est une carte postale ou qu'est-ce que c'est, la Veduta?
À l'origine, c'est ça. Ce sont des vues de Venise que l'on commande pour avoir le souvenir de la ville. Mais peu à peu, c'est un genre qui est devenu proprement vénitien. On devient, les artistes comme Canaletto, comme Marieschi, comme plus tard Francesco Guardi, deviennent les chroniqueurs des grandes fêtes, des transports du Doge à tel ou tel endroit, ou bien la fête sur la Piazza San Marco. Et effectivement, ce sont souvent des étrangers, plutôt des Anglais, qui commandent ce genre de tableaux ou qui les collectionnent.
Et c'est une technique particulière, parce que j'avais l'impression que c'était un instrument d'optique qui permettait de parvenir à cette représentation presque parfaite.
Effectivement, Canaletto, Guardi ont possédé une caméra oscura, ce qui est un peu l'ancêtre, très lointain ancêtre de l'appareil photo. Et au musée Correr, on possède encore celle de Canaletto et celle de Guardi, mais il se donnait des libertés. C'est assez le
Vous
côté
dire que la
peu...
caméra oscura ne suffit pas à expliquer la perfection de leur projet
Ça explique la perfection orthogonale dans certaines parties des tableaux, mais en fait, ils travaillent la perspective. Il y a dans l'exposition deux tableaux qui montrent bien qu'ils élargissent la perspective pour rendre la scène beaucoup plus théâtrale.
Décrivez-nous.
Alors, la vue du Rio dei Mendicanti. On a sur la gauche l'église des Mendicanti, un de ses ospedali. Et sur la droite, on a un squero. C'est un hangar à bateaux, c'est une sorte de chantier naval pour gondoles, puisqu'à Venise, ce sont des gondoles. Et il a complètement élargi, on a l'impression que c'est le Grand Canal, tellement ce canal est large. Alors qu'en fait, quand on le connaît, on est un peu comme si on était dos à Murano, et on est sur les fondamentés nuove. Et la perspective est transformée, mais on reconnaît parfaitement ce squero qui existe encore, l'altana sur un des toits, ces linges qui flottent aux fenêtres des maisons, et puis cette couleur très argentée, très particulière, que Canaletto n'utilisera plus dans les années suivantes, parce que quand il travaille essentiellement pour une clientèle d'Anglais, les Anglais veulent une lumière méridionale.
Ah, c'est drôle, ils ne cherchent pas la lumière vénitienne, ils ne veulent pas cette lumière légèrement argentée avec une pâle brume comme ça qui flotte dans l'espace et qui la transforme, qui argente un petit peu les choses. Ils veulent une lumière forte du midi qui casse les couleurs.
Quand vous allez dans les châteaux anglais et que vous voyez tous ces canaletto extraordinaires, vous remarquez qu'il y a une sorte d'homogénéité de la lumière, effectivement.
Ouais. Mais alors, c'était des canaletto pour vous qui fait ces milliers de tableaux représentant l'eau à Venise avec cette technique fantastique. C'est un grand artisan ou c'est un artiste?
Je pense que c'est un artiste et il dissémine dans ses œuvres des petits détails qui sont encore d'une certaine manière sa signature. Et puis sa touche est merveilleuse quand vous regardez de près. Vous pouvez le tableau de l'atelier des tailleurs de pierre, qui est une œuvre totalement unique. Un site que personne d'autre n'a représenté.
On voit les puits en train d'être taillés, ces puits qu'on retrouve sur toutes les places.
Et là, il y a une épaisseur de la peinture. La lumière passe à travers on ne sait quoi, c'est comme un filtre merveilleux.
Mais reconnaissez que c'est un des tableaux les plus atypiques de
Canaletto. Il est totalement atypique, mais on a la chance de le présenter à Paris. Il faut en profiter.
Et il y a un autre artiste, alors là, ce n'est pas du tout les vues de Venise telles qu'on l'imagine, mais c'est les vues de la vie vénitienne ou d'une vie très bizarre. Je ne sais pas si elle est artificielle, si elle est recomposée, réinventée complètement. C'est, par exemple, Longhi.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce Longhi, Masha Makaieff?
J'ai de la tendresse.
Il y en a beaucoup dans l'exposition.
Oui,
on a la chance
d'en
avoir
j'adore
beaucoup.
Les quatre petits qui sont dans la salle des saltimbanques,
oui.
À côté des Tiepolo, pas loin des Tréteaux. Oui, il y a une malice, bien sûr, mais il y a une façon par exemple, ces gens-là qui regardent le rhinocéros. C'est formidable. On pense aussi à Fellini, à cette bête qu'on transporte dans Elena Veva, avec des chanteuses. Il y a une permanence. Moi, j'aime beaucoup cette salle parce qu'il y a une permanence de la peinture qui prend la parole sur les saltimbanques et sur les artistes. Et c'est les artistes qui parlent des artistes. Et ça fait le lien avec l'autre exposition à Rousset de cette fascination de Picasso pour les saltimbanques. Enfin, j'adore la permanence des choses. Et dans ce 18e-là, on prend le temps, les peintres prennent le temps de regarder leurs compagnons qui marchent sur les mains, ceux qui se mettent des bonnets pour faire les pitres, l'arracheur de dents qui se donne en spectacle. Voilà, et vous parliez de la lumière, mais le théâtre est partout et dans l'exposition, il est aussi. Les artifices du théâtre sont là puisque François Menoux m'accompagne vraiment pour faire la lumière et c'est un éclairagiste de théâtre. Puis j'ai été accompagnée par Clémence Bezac, qui est une jeune scénographe aussi de théâtre. Et donc, on s'est retrouvés, nous aussi, dans cette idée du récit théâtral. Et pour ce thème-là, c'était très important que ce soit dedans et dehors, que le théâtre passe partout, d'autant plus qu'on accueille de jeunes acteurs. Alors, il se passe, les mercredis soirs, des choses étonnantes avec ces jeunes acteurs de la troupe éphémère qui sont là et qui, devant les tableaux eux-mêmes, se mettent à jouer d'Aponte et il y a quelque chose d'absolument naturel dans le frottement de ces saltimbanques avec les représentations des saltimbanques et les peintres qui s'amusent de tout ça. Et on ne sait pas où ça commence, où ça s'arrête. Et c'est très vivifiant pour nous, la peinture. Au théâtre, ça nous porte. Moi, je ne peux pas imaginer commencer un spectacle sans me frotter à eux, sans les regarder. Ce sont nos maîtres.
Alors, Catherine Loisel, ces scénettes. Avec des jeux de masques, des jeux d'apparence, des jeux de regard, des gestes très construits d'un personnage à l'autre, une décomposition sous une apparence simple, très savante, avec des je pense à nouveau à Longhi. C'est des histoires vraies qu'il nous montre, c'est des compositions, c'est des choses incroyablement simplifiées. Qu'est-ce que c'est que ces tableaux? C'est un genre très particulier, ça n'existe qu'à Venise.
Exactement. La fête vénitienne, la représentation des divertissements vénitiens n'existe qu'à Venise. Alors, il y a une réalité historique. Pour Longhi, on sait que ce sont des commandes d'une famille de patriciens, notamment la famille Grimani, qui se fait représenter derrière le rhinocéros. Et pour Gian Domenico Tiepolo, j'ai une hypothèse. Je pense que c'est l'exil. Lorsqu'il est parti travailler avec son père à Würzburg, c'était un long voyage, ils ont mis 2 mois pour aller à Würzburg. Il est resté 3 ans et je pense que la ville lui manquait et il a conçu ces fêtes vénitiennes. Les 2 tableaux qui sont dans l'exposition, le charlatan et le menuet, sont les 2 premiers d'une longue série de scènes vénitiennes. Un menuet sur une place publique, un charlatan qui vend ses faux remèdes devant une foule masquée. Et je crois que c'est fortement lié à la nostalgie de Venise.
Alors, il y a quelque chose dont il devait être nostalgique et dont vous parlez beaucoup dans le catalogue. C'est cet endroit où on pouvait quasiment tout faire. Jouer, des fortunes, voir des arracheurs de dents, prendre une courtisane. Comment ça s'appelle cet endroit?
Le ridotto.
Le ridotto.
En fait, sur la Piazza San Marco, on pouvait tout faire aussi. Et le président de Brosse ne s'est pas privé de s'amuser sur la Piazza San Marco lors de son voyage de 1739.
Mais tout le monde s'amusait, hein, parce qu'il n'y a pas un prince qui passait là sans aller au ridotto masqué et profiter un petit peu de cette scène incroyable.
C'était un endroit qui appartenait à l'État. Et c'est une sorte de casino. Il y avait des salles réservées à certains jeux de hasard. Il y avait la salle des pleurs, lorsqu'on avait perdu sa fortune. Il y avait des rafraîchissements. On pouvait y lire des gazettes. Il y avait des usuriers. Et en fait, il y avait aussi beaucoup de courtisanes et d'entremetteurs. Et,
des prêtres qui vous prêtaient de l'argent ?
Les prêtres, je ne sais pas, ils étaient masqués, on ne pouvait pas le savoir. Ouais. Tout le monde était masqué. Le roi de Danemark est venu au ridotto, on le sait, il a gagné beaucoup d'argent, beaucoup de sequins. Et il, avec une grande élégance, il les a fait tomber comme par mégarde, afin que des nobles ruinés, des nobles pauvres puissent les récupérer.
Alors d'ailleurs, c'était des nobles pauvres qui étaient aux tables de jeu et qui les répartissaient, qui étaient les croupiers en quelque sorte, non ?
Exactement, et ils devaient porter la toge noire et la perruque grise, et ils étaient à visage découvert.
Ce que vous appelez la toge noire, c'est la baota, c'est ça ?
Non, la toge noire, c'est le grand manteau noir, la grande robe noire qu'ils ont par-dessus leurs vêtements, et qu'on voit très bien dans le tableau de Francesco Guardi, le ridotto qui est exposé. Ces nobles pauvres, que l'on appelait les Barnabotti, parce qu'on avait mis à leur disposition des logements du côté de San Barnaba, qui est une église pas très loin de l'Academia. Ces nobles pauvres ont constitué un formidable magasin de vote que l'on pouvait acheter, puisqu'ils étaient patriciens, ils pouvaient voter, donc il était très facile d'acheter leur vote.
Et ça, c'était très important, puisque le doge était élu.
Voilà, donc on dit que certains des doges de la fin de la République ont acheté fort cher leur élection.
Alors, il y a dans cette atmosphère étrange un ensemble de règles que vous décrivez à l'instant et qui donne la sensation que cette liberté est en fait incroyablement précisément encadrée. Chacun a le droit de faire ceci et pas cela, de sortir de la ville ou de ne pas sortir, d'avoir telle action ou tel rôle public et pas un autre.
Les nobles sont obligés de demander l'autorisation du Conseil des Dix pour partir, oui, pour quitter Venise. Notamment pour quitter l'État vénitien, dont vous savez qu'il va jusqu'à Bergame, qu'il jouxte la Lombardie.
On n'a pas le droit de porter des bijoux si on est marié depuis plus d'un an. On n'a pas le droit de mettre des couleurs sur sa gondole. Enfin, c'est étonnant, cet hyper-contrôle.
Le contrôle concerne les nobles, essentiellement. On a tellement peur à Venise d'un coup d'État que le Conseil des Dix, les inquisiteurs, veillent surtout à ce qu'aucune famille noble ne se détache. Donc, toutes ces lois somptuaires, les femmes n'ont pas le droit de porter leurs diamants après un an de mariage, et les diamants restent en dot, restent la propriété de la famille, constituent une sorte de fortune morte. Les gondoles sont toutes identiques, et tous ces patriciens sont extrêmement surveillés par les agents secrets.
Alors, dans l'exposition, vous racontez la façon dont les grandes cours d'Europe s'emparent de ces grands artistes qui sont là. Mais à la fin de l'exposition, il y a un personnage qui apparaît, dont vous avez dit il y a quelques instants un mot, mais à peine un mot, et je voudrais qu'on parle de lui. Il s'appelle Gian Battista Tiepolo. C'est le fils de son père, pourrait-on dire. Et je voudrais qu'on écoute un texte du grand philosophe Agamben sur le Polichinelle, et qui parle de la façon dont, à la fin de Venise, Tiepolo, fils, reprend l'œuvre de son père et fait du Polichinelle un personnage essentiel. Alors, vous ne serez peut-être pas tout à fait d'accord avec l'analyse qu'il fait, et ça m'intéresserait d'avoir votre contrepoint. Écoutons-le.
En s'enfermant à Zianigo en compagnie de Polichinelle, Gian Domenico ne choisit ni la farce ni la tragédie. Il ne s'agit pas davantage, comme les interprètes le répètent à l'envi, de désenchantement ou de désillusion, mais bien plutôt d'une sobre méditation sur la fin. Pour lui, Polichinelle est à coup sûr dans le bien comme dans le mal, dans l'infamie comme dans la gloire. Ce qui survit, sinon à la fin du monde, à tout le moins à la fin d'un monde, son monde, la figure que prend toute chose quand elle a fait son temps.
Vous êtes sur France Culture et nous parlons de la Venise du XVIIIe siècle à l'occasion de la grande exposition qui se trouve en ce moment au Grand Palais. Et je suis avec Catherine Loisel, la commissaire, et Macha Makaïev. Nous venons de faire une allusion à Giambattista Tiepolo, donc à propos d'un livre d'Agamben dans lequel Agamben raconte que Domenico a commencé le divertissement au lendemain de l'effondrement de la République, c'est-à-dire en 1797, et qu'il s'agit là d'une évidence. Mais ce Giambattista Tiepolo qui apparaît à ce moment-là, soit dans ses peintures, soit dans ses dessins, donne la sensation de créer quelque chose de très différent de son père, dont il a été pourtant l'assistant. Racontez-nous, Catherine.
Alors, ce qui est fascinant, c'est de voir comment un peintre qui exerce le même métier que son père, qui est un génie reconnu universellement, arrive à montrer sa propre personnalité. Et c'est un travail qui ne ressort pas seulement de l'histoire de l'art. Et c'est un des points qui m'a le plus fascinée dans l'exposition, dans le travail de l'exposition. Et j'ai voulu mettre en valeur justement la personnalité propre de cet artiste. C'est lui qui invente ses fêtes vénitiennes. C'est lui qui invente ses scènes de la vie quotidienne à Venise. On présente le tableau, le petit tableau qu'il a fait en Espagne quand il était pendant 10 ans avec son père en Espagne. Le Burchiello, ce bateau qui permettait, cette diligence qui permettait d'aller de Padoue à Venise, Venise étant une île, et de découvrir la lagune depuis la mer, depuis l'eau. Ce Gian Domenico était tout à fait avait un esprit très différent, beaucoup plus sarcastique encore que celui de son père. Son père qui a fait énormément de caricatures, mais il a s'est emparé de Polichinelle comme d'une sorte d'autoportrait. C'est un personnage qui navigue dans la vie vénitienne de la fin du siècle. Et il retranscrit un peu l'émotion de l'artiste. C'est vrai, désillusion, c'est le mot, tout à fait. Quand il a compris que la République de Venise n'existait plus, il est quand même né vénitien et mort autrichien. Il s'est consacré essentiellement à la fresque dans sa maison de Zianigo et au dessin.
Alors, Macha Makaïev, vous avez été vous aussi sensible à ce personnage qu'on connaissait mal en fait. On sait qu'il était l'assistant de son père, on savait qu'il était aussi artiste ensuite, mais moi j'ai toujours considéré que c'était un artiste, un second couteau comme on dit vulgairement.
Et je trouve effectivement qu'il, comme son père ne l'a pas tué, il est extrêmement vif. C'est rare, hein, les pères qui ne tuent pas leurs fils qui veulent entrer dans la même carrière. C'est très rare.
C'est vrai. Mais le fils n'a pas tué son père, non plus.
Non plus, mais il s'en est. Souvent. Oui, mais il a pris une malice aussi. Il s'est amusé. Il a pris de la distance. Il est à la fois plus libre et moins libre. C'est un artiste beaucoup plus de l'exil, en fait. Il est dans les pas de son père, il est transporté, et donc il recrée une Venise qu'il n'a plus. Donc c'est encore plus une vision et un artifice, et il surthéâtralise, enfin, et ça j'aime beaucoup, et il montre tellement ceux qui regardent plus davantage que ceux qui regardaient. Et ça, donc, ça donne une sensation de suspension. Qu'est-ce que c'est que regarder? Il nous dit tout le temps, mais qu'est-ce que vous regardez comme ça?
Alors, quand il va revenir, quand il va quitter son père, il va s'installer dans cette villa près de Padoue, Zianigo. Mmh. Et là, il fait un univers total, il fait une œuvre d'art totale. Hein. Donc, le monde nouveau dont il parle, qu'est-ce que c'est?
Alors, au départ, c'est un objet, le mondo novo. C'est une boîte dans laquelle on passe des vues d'optique, qui sont éclairées à l'arrière par une bougie. Et ces vues peuvent être vues de manière diurne ou nocturne grâce à la bougie. Et ce sont des vues des capitales européennes, des villes d'Europe. On passe même à Venise des vues de Versailles, par exemple, ou de Londres. Dans l'exposition, j'ai choisi plutôt évidemment des vues de Venise. C'est une attraction qu'on trouve sur toutes les places publiques d'Europe au XVIIIe siècle, mais Gian Domenico en a fait un mythe. C'est véritablement la représentation de Venise au XVIIIe siècle, de ces foules agglutinées devant une attraction qui leur ouvre le monde auquel ils n'ont pas accès. Et on s'interroge évidemment devant ces dos qu'on nous présente, très variés. Il y a toute la population, il y a des nobles.
Cette façon de faire rentrer le regardeur par des dos est très étrange, hein, c'est vraiment d'une modernité folle.
Oui, il y a même son autoportrait, le portrait de son père, dans la fresque de Zianigo, qui est le plus grand exemplaire de ce Mondo Novo. Ils sont de profil, on les reconnaît tous les deux. Il y a la vieille femme, qui est souvent inspirée de Titien du reste. Il y a le noble, le jeune, le vieux. C'est vraiment, on a l'impression de faire partie de cette population.
Ce qui est étrange, c'est je ne sais pas ce que vous en pensez, Macha, c'est ce monde clos. Il s'installe dans un monde clos, on a l'impression qu'il va sortir de Zianigo à regret, et il développe sur la fin de sa vie, il a presque 70 ans... Une œuvre complète, faite de dessins, faite de fresques, faite de machines d'optique.
Oui, parce que c'est un artiste privé. Donc, de cette privation, il en tire un monde nouveau.
Au sens privé des autres ou privé.
Privé des autres, et en même temps, il est privé dans le sens où il peint dans une chambre, en fait. Il se recrée un monde, et en même temps, il y a là encore le théâtre. Donc, mais c'est comme si on était au fond de la salle et comme si le théâtre, comme si le spectacle s'éloignait aussi, comme s'il n'était plus tout à fait possible de voir Venise que au-dessus des dos. Et donc il y a une joie, c'est évident. Quand on voit la palette, c'est incroyable. Quand on voit le geste, la profusion, et en même temps il y a une mélancolie de celui qui n'a plus Venise pour lui-même et qui la réinvente. En même temps, c'est une chance inouïe pour un artiste que d'être privé de ce que l'on aime le plus.
C'est intéressant qu'une artiste dise cela. Et donc, pour vivre dans ce monde clos, il poursuit l'œuvre de son père et il fait quoi, une centaine de dessins de ce Polichinelle extraordinaire, personnage de la Commedia dell'arte, qu'en France, on ne peut pas très facilement comprendre, qui n'arrive pas, qui ne meurt jamais, qui s'échappe toujours des situations les pires et qui est à la fois un idiot, un sage, un mélancolique, un philosophe, Catherine Wesel.
Oui, c'est tout à fait ça. Il a fait un recueil de 104 dessins sur le thème de Polichinelle dans tous les actes de la vie à Venise. Et c'est très, ça se veut humoristique. Moi, je trouve que c'est plutôt tragique la plupart du temps. Il fait même des pastiches de tableaux de son père. Il représente des Polichinelles, des tableaux de son père avec des Polichinelles.
Alors, Polichinelle, c'est le dernier mot de notre émission, grâce à ce Tiepolo que vous nous avez fait redécouvrir. Merci infiniment, Catherine Loisel, d'avoir été la commissaire de cette exposition et de venir nous en parler. Macha, vous n'êtes pas une artiste privée, vous avez mille choses à nous dire et mille choses à faire. Et je m'en réjouis et je vous propose d'écouter pour finir un texte qui vient de sortir chez Grasset d'un très très bon auteur, Gilles Herzog. Il a écrit ce texte « Dernier Vénitien » et qui raconte l'histoire de ce dernier Tiepolo.
Morte la sérénissime, morte cette ingrate, cette rebelle au renouveau des arts, à l'avancement des idées, cette décadente bien joyeuse, cet anachronisme doré. Morte la cérémonieuse et sa magnificence fanée, morte sur le champ, par l'âge suicide du Grand Conseil il y a 4 ans. À l'instant où ce fléau de Bonaparte, d'une chiquenaude, lui en intima l'ordre, en ce fatal jour de mai 1797. Ô jour funèbre pour Venise, mais jour libérateur pour nous les Vénitiens. Oui, si merveilleuse, si vénéneuse fut-elle, il fallait que la vénérable Catin, ce lupanar tournoyant, où tous les libertins d'Europe venaient à carnaval s'étourdir aux bras de courtisanes et saillir les putains, s'effaça. Il fallait que Venise finît, que son bras, l'inutile sublime république millénaire, à bout de souffle, aux mains de patriciens remontant au déluge.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Macha Makaïef et Catherine Loisel à l'occasion de la grande exposition éblouissante Venise qui a lieu au Grand Palais et ce jusqu'au 21 janvier. C'était une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata.
Prise de son, Julien Douminc. Lecture des textes, Lara Brulle. Réalisation, Laurent Polleré. Merci Laurent. La semaine prochaine, ça va être passionnant. Nous parlerons de Baltus à l'occasion de sa grande rétrospective à la Fondation Beyler à Bâle. Et, chers auditeurs, à 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.